Avec la revue de presse internationale d'Éric Biégala. Bonjour Éric. Avec
Bonjour,
tout d'abord ces révélations dans la presse américaine ce matin, une collusion entre le régime de Bachar el-Assad et la Corée du Nord pour produire des armes chimiques.
Oui, c'est le New York Times et le Wall Street Journal qui ont en effet mis la main sur un très lourd rapport rédigé par des enquêteurs des Nations Unies, un rapport qui n'avait pas vocation à être rendu public et qui détaille les transferts physiques de technologies apportées en Syrie par Pyongyang. C'est en enquêtant sur le régime de sanctions qui frappe la Corée du Nord, en vérifiant, si l'on veut, que ces sanctions sont effectivement appliquées, que la petite dizaine de spécialistes mandatés par les Nations Unies est tombée sur ces cargaisons, transportées par mer et sur des bateaux chinois, depuis la Corée du Nord jusqu'au port syrien. Des preuves déterminantes de cette collusion ont été mises au jour en janvier 2017, lorsque deux navires transportant des tuiles spéciales résistantes aux acides et communément utilisées dans les usines qui produisent des armes chimiques ont été arraisonnés en mer, alors qu'ils se dirigeaient vers Damas, écrit le New York Times, citant le rapport onusien. Ces deux cargaisons faisaient partie d'un lot de 5 et tout avait été contracté par une société publique syrienne auprès de la Korea Mining Development Trading Corporation, une compagnie nord-coréenne impliquée dans les exportations d'armement. Les liens entre Corée du Nord et régime syrien sont anciens, rappelle encore le New York Times. Des officiers et des ingénieurs nord-coréens ont depuis longtemps participé en Syrie à l'élaboration du programme d'armement syrien, notamment de ses missiles, mais force est de constater que ces liens se sont poursuivis durant la guerre civile et probablement pour mettre en œuvre des armements chimiques entre 2011 et 2017, au moment même où Damas était censé se débarrasser de tout son potentiel offensif
et
de cette nature.
À Washington, toujours Eric, c'est le gendre du président Jared Kushner qui se retrouve sur la sellette.
Oui, Jared Kushner en effet vient de perdre son habilitation top secret. Ainsi en a décidé le chef de cabinet de la Maison Blanche, John Kelly. Le gendre du président ne pourra plus avoir accès au briefing top secret du renseignement américain, ce qui risque de limiter son champ d'action, alors même que Jared Kushner est impliqué dans certains des dossiers les plus importants de la politique extérieure américaine, relève le site en ligne Politico. Kushner, en effet, chapeaute notamment la possible relance du processus de paix entre Israël et les Palestiniens pour le compte de la Maison Blanche. Cette rétrogradation de Jared Kushner à un niveau d'habilitation simple est sans doute due au complexe réseau de relations personnelles et financières que le gendre de Donald Trump entretenait avec des puissances étrangères. Le Washington Post, citant plusieurs hauts fonctionnaires du renseignement américain, révèle d'ailleurs, dans son édition de ce mardi, qu'au moins 4 pays, la Chine, le Mexique, Israël et les Émirats Arabes Unis, ont envisagé de manipuler Jared Kushner compte tenu des faiblesses et de l'inexpérience du gendre du président, qu'il ait ainsi été évalué par les services de renseignement étrangers comme un possible atout, pouvant prêter le flanc à diverses pressions ou manipulations, explique sans doute pourquoi le mari d'Ivanka Trump, présentement haut conseiller du président américain, n'est plus aujourd'hui habilité au top secret.
Et enfin, les éditorialistes Eric se demandent également ce que l'Occident pourrait bien faire en Syrie pour mettre un terme au massacre.
Eh bien, pas grand-chose, hein, si l'on suit ce qu'en dit par exemple Nathalie Nougaret dans les colonnes du Guardian ce matin. On se souviendra de la guerre syrienne comme de la défaite morale de l'Europe, écrit l'éditorialiste. La Syrie est la démonstration de notre impuissance absolue, poursuit-elle. Elle est le vortex dans lequel un ordre mondial basé sur des règles s'effiloche à toute vitesse. Et nous, en Europe, nous devrions nous en soucier parce que l'enjeu des Nations Unies a toujours été plus important en Europe qu'aux États-Unis. Quand les règles s'effondrent, comme ce qui s'est passé durant les années 30 avec l'explosion de la Société des Nations, nous savons très bien, nous, en Europe, quel type de bêtes féroces peuvent dresser leur tête. Aujourd'hui, la Syrie est l'endroit où les autocrates et les nouveaux dictateurs prévalent. Poutine, Recep Tayyip Erdogan et la théocratie militaire iranienne y tiennent le haut du pavé, tandis qu'en face, on ne peut pas dire que la personnalité d'un Donald Trump puisse faire office de flambeau particulièrement rassurant, se désole-t-elle. Pour David Ignatius du Washington Post, il ne s'agit plus en effet pour l'Occident que de faire valoir une sorte de stratégie de la corde d'oreille en Syrie, compte tenu des enjeux poursuivis par des acteurs de plus en plus variés. S'agit-il surtout de contrer l'Iran sur le terrain syrien? C'est manifestement aujourd'hui l'une des priorités de l'administration américaine, comme d'ailleurs d'Israël. Et pour sortir du chaos syrien, écrit encore David Ignatius, les experts, aussi bien à Washington qu'à Tel Aviv, soupèsent en ce moment même la possibilité d'un éventuel accord entre les alliés clés des États-Unis en Syrie, les Kurdes des forces démocratiques syriennes, et l'État syrien. Une telle alliance entre Kurdes et gouvernement pourrait se révéler un bien meilleur rempart contre l'influence de l'Iran que, par exemple, une présence militaire américaine qui n'est de toute façon pas viable à terme. Un tel deal, entre le régime actuel et les Kurdes pourrait même constituer la colonne vertébrale d'une future Syrie nouvelle et réformée, espère encore David Ignatius. Reste que sur le terrain syrien, les accords, y compris le plus minimal, comme un cessez-le-feu de quelques heures hier sur la Ghouta orientale, par exemple, ne sont toujours pas à l'ordre du jour.
Merci beaucoup Éric Biégala. Dans quelques instants, nous allons parler de la réforme de la SNCF et on va partir du début en tout cas, de cette séquence avec le rapport Spinetta, un rapport complexe, avec des préconisations qui, comme vous le savez, n'ont pas toutes été suivies par le gouvernement, mais une situation qui finalement est beaucoup plus contrastée et qu'on tend à le dire, avec des solutions. Eh bien, on verra si celles-ci peuvent être adaptées. Il est 7h30 sur France Culture.